Chapitre 54. Dans la salle de crise, Charcot se tenait debout, sa veste gris anthracite chiffonnée sur le dos. Pascal et Lucie étaient à sa droite, Nicolas à sa gauche. Un magnétoscope leur faisait face. Audra s'avança vers Bélanger, qui tendit sa joue poliment, comme si de rien n'était, et lorsqu'elle lui demanda si ça allait, il se contenta de hocher le menton vers les écrans. Ils avaient retrouvé leur fonction première. Trois d'entre eux renvoyaient les images des caméras braquées sur les bords de la Seine. L'eau était partout avec sa couleur de vieux sable. Un écran montrait le zouave et les dégâts sur les quais. Elle aperçut sur l'écran du bas une vue en contre-plongée du port Van Gogh. Une caméra devait traîner sur le pont d'Anières. Les péniches s'imbriquaient comme des Legos géants. Certaines avaient pivoté, se décalant vers leurs voisines. Elle reconnut à l'arrière-plan le bateau de Nicolas et sa passerelle en déroute qui balayait les flots. Elle déglutit sans rien dire, lui accorda un bref regard, prit place et revint vers Charcot. Il la lorgna du coin de l'œil et commença.
« Avant toute chose, deux points. Le premier... La recherche dans le FNEG du profil ADN lié au doigt féminin n'a rien donné. Ce doigt reste un doigt anonyme. Le second, j'ai eu un retour de l'informatique. Visiblement, les ordinateurs de chevalier trouvés dans la cave où étaient retenues les victimes sont protégés par des systèmes de cryptage. Les techniciens planchent là-dessus, mais il va leur falloir des jours pour en venir à bout. » Il existe aujourd'hui des moyens de crypter si complexes qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Et donc, si le manifeste se trouve sur l'un de ces ordinateurs, on n'est pas prêt de le lire.
Super nouvelle, ironisa Pascal.
Charcot demanda à Lucie et Audra de raconter leur visite au laboratoire de police scientifique. Elles expliquèrent ce qu'elles avaient retenu. La technique CRISPR-Cas9, la possibilité de manipuler le vivant avec un minimum de moyens. Les expériences de Demanchot sur son chien et sur lui-même. Et l'approche scientifique du mythe de Prométhée. Charcot resta figé. Modifier le vivant. Il revoyait le chien qui s'était jeté sur lui. Cela signifiait-il que des individus pouvaient créer ce genre de monstre au fond de leur garage? Sous le coup, il finit par prendre quelques notes au tableau. Puis, il demanda à Pascal de parler de sa visite à IDF Med.
« Demanchot y travaillait depuis 6 ans, » expliqua Robillard. Il gérait un portefeuille d'une trentaine de clients, principalement dans le domaine de la gynécologie, installés à Paris et dans toute l'Île-de-France, et allait les démarcher pour leur proposer du matériel médical dernier cri. Ils m'ont fourni son CV et m'en ont appris un peu plus sur lui.
Il poussa des feuilles vers ses collègues.
Vous jetterez un œil. Avant IDF Med, il a été délégué médical, toujours en gynécologie, et encore avant, il vendait des fauteuils roulants. Il a fait ses études à la fac de Rouen dans le commerce. Bref, rien de médical au départ, mais il aimait cette discipline. Il en connaissait un rayon dans son domaine et pouvait tenir une conversation avec des spécialistes. Il était en permanence sur la route, travaillait seul, gérait lui-même son planning et était payé au résultat. Très pro, rigoureux, solitaire, jamais de faux pas et il dégageait du chiffre. Il était passé à mi-temps depuis 2 ans afin de vivre sa passion pour le cinéma. Il voulait se donner du temps pour essayer d'écrire et de réaliser un court-métrage à petit budget avec les moyens du bord. Évidemment, ses employeurs n'ont pas su de quoi il retournait.
Charcot désigna la jaquette avec les masques.
« Tu m'étonnes. Avant de parler de ça, tu leur as montré le carnet? La ronde des fœtus? Les dessins bizarres?
« Oui, mais ça ne leur dit rien du tout. Fœtus, gynécologie, naissance, on se doute que c'est lié, mais difficile de savoir ce que Demanchot a voulu dire par là. En tout cas, je ne les lâche pas chez IDF Med. J'ai demandé la liste des employés, et ils vont aussi me fournir la liste des clients de Demanchot.
Ceux qui ont assisté à la mort de Chevalier au bord de la fosse font peut-être partie de son cercle de connaissances.
Parfait.
Charcot prit une jaquette entre les mains.
Les films, maintenant. On a découvert cette cassette vidéo chez De Manchot, parmi une série de courts-métrages déviants ultra-réalistes. Nicolas l'a apporté ce week-end à un collègue cinéphile pour obtenir un avis. Maintenant que vous êtes tous là, je vous laisse découvrir ce que Nicolas a visionné ce matin. Pour moi, c'était il y a une petite heure. On pense qu'on a débordé du cadre de la fiction.
Au fur et à mesure de la projection, l'angoisse prit Audra à la gorge. Vers la fin, elle reconnut la physionomie de De Manchot et le vit s'approcher avec son couteau. Elle plissa le nez lors de la mise à mort de la femme, mais s'efforça de regarder jusqu'au bout. Quand Charcot fit une pause sur le visage de la victime, Lucie resta immobile. Pascal s'était affaissé sur sa chaise.
« C'était quoi, ça ? De Manchot en train de buter quelqu'un pour de vrai ?»«
Quelqu'un, oui, » répliqua Franck.
Charcot hocha la tête vers Nicolas qui, après une manipulation, afficha sur l'écran voisin un film contenu sur une clé USB. On y voyait Bertrand le Sage, puis une femme, assise sur le lit d'une chambre d'hôtel. Bélanger figea l'image lorsque le visage encadré de longs cheveux bruns se tourna en direction de la caméra sans la voir.
« C'est la même femme ?»
lâcha Pascal.
« Ce film sur la clé est l'enregistrement réalisé par Bertrand le Sage dans une chambre d'hôtel de l'aéroport Charles de Gaulle, le soir de l'insémination, » expliqua Nicolas.
« Oui, la femme de l'hôtel est bien celle assassinée sur la cassette. » Il put lire la stupéfaction sur les visages de ses collègues.
« Elle s'appelle Émilie Robin. C'est elle que Boëti et son équipe recherchent dans le cadre du procès des Le Sage. » Elle vivait à Dijon. Les collègues disposaient de son adresse depuis une quinzaine de jours, mais n'ont pas réussi à l'interpeller. Et pour cause. Son meurtre filmé est récent. Un mois maximum, puisque son dernier mouvement bancaire remonte au 6 octobre dernier.
Nicolas fit avancer l'image dans la chambre d'hôtel et mit de nouveau sur pause quand la main gauche d'Émilie Robin se décollait du lit pour enfiler un gant en latex.
Avec Lucie, on n'y avait pas prêté attention quand on a visionné le film chez Hélène Le Sage l'autre fois, parce qu'il faut vraiment se concentrer sur la main. Mais même si ce n'est pas très net, on devine que son auriculaire gauche est trop court. Il a été en partie amputé.
Un silence éloquent s'installa dans la pièce. Charcot entendit presque une série d'engrenages qui s'enclenchaient dans les têtes de ses lieutenants. Il invita Nicolas à poursuivre.
Le scénario de ce merdier se précise un peu plus. On sait qu'Émilie Robin quitte la banlieue parisienne pour aller se cacher à Dijon en septembre 2016, 2 mois après l'insémination bidon dans un hôtel proche de Charles de Gaulle. Elle est enceinte du petit Lucas et a déjà ce doigt coupé. On pense qu'elle fuit le père biologique ou en tout cas des poursuivants qui pourraient nuire à l'enfant dans son ventre. Quand je dis « des poursuivants », je crois que vous voyez où je veux en venir.
« Le clan des phalanges coupées ?» lâcha Pascal.
« Oui, et dont assurément elle fait partie au même titre que De Manchot. La vidéo le prouve. Elle aussi porte le masque. Elle aussi a la mutilation à la main. Elle a sans doute retourné sa veste, s'est sauvée, cachée. A-t-elle été battue et torturée au même titre que l'autre femme dans Atrodz ? A-t-elle eu droit à toutes sortes de sévices comme un rituel de passage avant qu'on l'ampute et l'accepte dans le clan ou la secte ou le club de sadiques ou peu importe leur nom ? Elle les a sans doute trahis en fuyant, mais ils ont réussi à la retrouver avant la police et se sont vengés.
De Manchot serait le père biologique de l'enfant ?
Demanda Audra.
Quand on voit avec quelle hargne il lui ouvre le ventre sur le film, ça reste une possibilité, répliqua Charcot. Elle fuit. Il la retrouve à cause de la médiatisation autour des Le Sage. et il organise ce sacrifice. En tout cas, on devrait le savoir dans la journée, puisque le labo de Bordeaux travaille sur son ADN et sur celui du petit Lucas. Ces deux doigts sont peut-être ceux des parents du môme, morts tous les deux.
Il soupira. Une image qui, en d'autres circonstances, aurait pu prêter à rire, lui traversa la tête. Une fraction de seconde, il vit l'enfant plus grand en train de lever un bocal dans chaque main face à une assemblée. « Je vous présente mes parents. »
Pour prolonger l'idée de Nicolas, Émilie Robin décide donc de fuir du jour au lendemain, continua-t-il. Elle se cache, elle croit mettre Lucas en sécurité entre les mains du couple Lesage. Mais le scandale de l'arnaque à la GPA éclate. La lumière attire alors les ombres. De Monchaux retrouve la trace de Robin. Il a un avantage sur les flics, il connaît son identité, son visage, et donc il va plus vite qu'eux. La savait-il enceinte quand elle a fui? Ou l'a-t-il deviné lorsque le scandale a éclaté? Difficile à dire. En tout cas, il la kidnappe, récupère des affaires dans l'appartement afin de simuler un départ et décide de se venger de la pire des façons.
En tournant ce film avec sa bande de tarés masqués, se désola Pascal.
Il veut garder une trace de ses actes, revivre ça chaque fois qu'il en aura envie.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Personne ne releva, parce que nul n'avait la réponse. Pascal avait raison. Que cherchaient ces anonymes? Quel événement avait poussé Émilie Robin à prendre la fuite? Était-elle au courant pour le laboratoire souterrain? Craignait-elle pour son propre enfant? L'enfant, Lucas. Nicolas formula à voix haute la question qui lui vint à l'esprit. Et le môme? Il observa ses coéquipiers qui le fixèrent soudain avec intérêt.
Qu'est-ce qu'il a, le môme?
Demanda Charcot. Ben oui, on a oublié de s'intéresser à lui alors qu'il est visiblement au cœur de toute cette histoire. Émilie Robin disparaît, se refait une vie pour le protéger, elle met en place toute cette arnaque à la GPA, c'est un énorme sacrifice. De Monchaux la retrouve, il la kidnappe et la tue, mais il ne s'intéresse pas à l'enfant alors qu'il sait parfaitement où le trouver. Ce type, ou plutôt ces types, sont des tueurs. Ils ont l'air de faire de méchantes expériences avec ces histoires de biohacking et de CRISPR. Si ce bébé est aussi important, alors pourquoi ils ne le récupèrent pas? Pourquoi ils ne l'ont pas enlevé lui aussi?
C'est sans doute trop risqué. Vu la médiatisation, ils ne veulent pas attirer l'attention.
Nicolas secoua la tête. Je ne peux pas croire qu'il le laisse tranquillement gazouiller dans sa pouponnière en attendant qu'on le mette dans les bras de parents adoptifs. Ils ont dû se rapprocher de lui à un moment ou un autre.
Ou ils attendent simplement que les choses se tassent.
Peut-être, peut-être pas. Je veux aller là-bas, poser des questions, voir ce bébé et essayer de découvrir ce que Chevalier a voulu nous dire. Je veux comprendre ce que cet enfant de quelques mois peut avoir de si spécial et pourquoi Émilie Robin était prête à risquer sa vie pour lui. J'ai le feu vert ?
Charcot réfléchit une poignée de secondes et acquiesça.
On ne perd rien à essayer. Vas-y. Je vais prévenir Boëti de ta visite là-bas et surtout pour les cassettes. Ce n'est plus Émilie Robin qu'on doit rechercher, mais son corps.
Audra se leva également. Je t'accompagne, Nicolas.
Le capitaine de police la regarda dans les yeux.
« Pas besoin d'être deux pour aller voir un môme. Tu seras plus utile ici. J'y vais seul. »